Le dévoilement de Dieu numéro 66. La souveraineté de Dieu dans la révélation. Le 25 novembre 2018. Brian Kozurek, pasteur. Ce matin, alors que nous continuons à parler du sermon de frère Branham Dieu de voile, nous commencerons une mini-série qui montrera la souveraineté de Dieu, alors que nous commençons ce matin à montrer sa souveraineté dans la révélation. Mais d'abord allons aux Écritures, pour lire notre texte alors que nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2.6 Cependant, c'est-à-dire une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, ceux qui sont complets et pleinement achevés, sagesse qui n'estère pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Cela signifie que nous n'aimons, disons pas ce qu'ils disent parce que tout ce qu'ils disent n'aboutira à rien. Point. 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse. Et, c'est-à-dire encore un mystère pour le monde car ce que, nous disons Esther, caché, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Ainsi, vous voyez, ce mystère caché que Dieu a caché au monde, il l'a destiné pour notre gloire, dit Paul. À savoir, pour notre doxa, ou nos opinions, valeurs et jugements, afin que nous puissions recevoir ces doxa. Ainsi, la sagesse cachée doit harmoniser notre doxa avec ces doxa. 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils eussent connu la doxa de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la doxa. 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'aient mis son point monté au cœur, la compréhension de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Ainsi, le monde n'a pas la moindre idée de ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime. C'est-à-dire ce qu'il nous dit ici. Mais bien que Dieu n'ait pas révélé à l'homme les choses qu'il réserve à ceux qu'il aime, il y a une exception. Il dit, 10, mais, et en utilisant ce mot, mais, ici, il dit, mais il y a une exception et puis, il nous dit ce qu'Esther cette exception. Il dit, sourire. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Et en nous disant que Dieu nous les a révélés par son Esprit, il nous dit que si Dieu Néhémie ne nous révèle pas ce mystère caché, nous Néhémie le connaîtrions pas. Et en fait, il nous serait impossible de le connaître et donc, d'être béni par ce que cela nous révèle. Puis il ajoute, car l'esprit qui estère l'esprit de Dieu, sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, si l'esprit de Dieu Néhémie nous le révèle pas, nous n'aurions pas la moindre idée de ce qui était caché. 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui estère en lui. De même, ou de la même manière personne n'aime connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui estère en lui. Ainsi, Paul fait comprendre clairement ici que personne n'aime pourrait connaître la sagesse cachée de Dieu à moins qu'elle lui soit révélée par l'Esprit de Dieu qui estère le grand révélateur. Ainsi, la sagesse estère souverainement donnée, c'estère ce que Paul dit ici. Ainsi, ce que nous étudions ici, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu dans la révélation. 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14. Mais l'homme animal Némi reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il Némi peut les connaître, parce que c'est-à-dire spirituellement qu'on en juge. 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. 190. Et Dieu était là, révélant cette parole, s'écriant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les cantiques même qu'ils chantaient dans le temple, ce que David avait composé pour eux des années auparavant, et qui se rapportent à Christ. Tous mes os y me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et ils étaient là, à chanter ça, alors que l'homme en question se mourait sur la croix. Et quand ils avaient fini et que, 191 quand il est mort, le Dieu du ciel est descendu, comme il l'avait fait sur le mont Sinage, avec le feu sacré, et il a brûlé le voile de ce temple, de haut en bas, il l'a déchiré. Et que pouvait-il faire? Regarder par la fenêtre du temple, là, au calvaire, et Dieu était là, exposé au regard de tous, le sacrifice. Mais cependant, il Néhémie pouvait pas voir et comprendre ce qu'il regardait. Il regardait directement l'accomplissement de la parole. Mais cependant, il Néhémie pouvait pas voir cela. Ainsi, vous voyez, Dieu est souverain avec la révélation de sa parole. Il choisit de révéler à qui il choisit de révéler, et aux autres, il leur cache. Et donc, ce matin, nous allons examiner la souveraineté de Dieu dans la révélation. Mais continuons de lire ce sermon, Dieu de voile, afin de voir d'autres choses que frère Branham nous dit à propos de cet acte souverain de la révélation. Remarquez aux pages 192 il dit, mais encore aujourd'hui, il Néhémie voit pas cela. Dieu, en ce dernier jour, a déchiré sa tradition, et il a exposé la parole pour cet âge au regard de tous, et ils Néhémie savent toujours pas ce qu'il en estère. Ils Néhémie savent vraiment pas ce qu'il en estère. C'est tellement simple. Voyez-vous? C'est tellement simple. Vraiment. C'est tellement étranger aux choses du monde. 193 L'autre jour, je prêchais, à une certaine réunion, sur être un cinglé. Un de ces jours, je voudrais parler de ça, d'être un cinglé. On est tous cinglés à cause de quelqu'un. Alors moi, je le serai à cause de Christ. Paul disait qu'on le considérait comme un fou. C'est sûr, forcément. Voyez-vous, il faut un écrou, frère Branham utilise le mot anglais nu qui signifie écrou, mais aussi, au figuré, cinglé, tiré d'été, pour maintenir les choses en place. Voyez, c'est exact. 194 alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui aimaient le péché Néhémie pouvaient pas voir ce qu'il en était. Ces gens religieux attachés à leur tradition Néhémie pouvaient pas voir ce qu'il en était, parce qu'il était un homme. Mais cependant, d'autres personnes pouvaient voir que c'était le Fils de Dieu sur la croix. Alors, pourquoi certains peuvent voir tandis que d'autres Néhémie le peuvent pas? Eh bien, tout d'abord, il Néhémie pouvait pas voir que Dieu était impliqué à cause du voile derrière lequel Dieu a choisi de se cacher. Mais cela n'explique pas complètement pourquoi certains pouvaient voir au-delà du voile, tandis que d'autres Néhémie le pouvaient pas. Fr. Branham dit, pourquoi? Cette chair humaine qui cache à Dieu. 195 Or, s'il avait été une grande colonne de feu qui serait descendue, voyez-vous, si une grande colonne de feu était descendue et leur avait montré ce qu'il était cette grande colonne de feu, ça, il l'aurait peut-être cru. Si Jéhovah avait circulé un peu partout. Mais, vous voyez, ce qu'il a fait, pour pouvoir contourner tous ces gens intelligents, sages. Il s'Esther simplement révélait tel qu'il l'avait promis à Moïse. Voyez-vous, je leur parlerai par un prophète. Et il était, fils de l'homme, un prophète. Et certains l'ont reconnu. Environ 0,1% du monde l'ont cru. Les autres, non. Mais s'Esther ce qu'il était quand même. 196 Mais le Dieu puissant était là, exposé au regard de tous, le propitiatoire. Il Esther mort, alors que ses propres enfants disaient. Ses propres enfants étaient là, ils disaient, nous n'y voulons pas de lui. Qu'il s'en aille. Ils ont craché sur lui. 197 Antipe. Bien longtemps avant, David, quand il avait quitté le temple, un roi rejeté, il descendait la rue, et une espèce de petit infirme qui marchait en se traînant, qui Néhémie l'avait jamais aimé, l'a traité de vieil hypocrite, ou quelque chose comme ça, il lui a craché en plein visage. Et le garde a dégainé son épée, il a dit, laisserai-je de la tête de ce chien sur lui, alors qu'il a craché sur mon roi? 198 David a dit, laisse-le. C'est-à-dire Dieu qui lui a dit ça. Et probablement que David Néhémie savait pas ce qu'il disait. Il gravissait la montagne, et il a regardé derrière en pleurant. 199-800 ans plus tard, le fils de David gravissait la même montagne, il a regardé au loin, en pleurant sur Jérusalem, un roi rejeté. Et ils lui ont craché au visage. De Saint-Néhémie voyez-vous pas? C'est-à-dire la même chose. Vous voyez cette parole, qui continue à s'enchaîner, qui continue à se dérouler aujourd'hui. Toujours rejeté par la majorité, voyez-vous, et cru par la minorité. 201 donc, voyez-vous, il Néhémie pouvait pas croire ça. C'est grec Néhémie pouvait pas le voir, il était dans son temple humain. Pourquoi, dirent-ils, cet homme-là, son nom Esther Jésus, il vient de Nazareth. 202 Or, à cette époque-là, les gens n'avaient qu'un nom. Par exemple, Jean, Jim, il disait, Jean de Jeffersonville, Jim de New Albany, ou quelque chose comme ça, vous voyez. 203 Il disait, celui-ci est Esther Jésus de Nazareth. Tout le monde dit que sa mère a été fécondée par un soldat. Voyez? Et alors? C'était exactement ce qu'il croyait. Certainement. Et, disons, il disait, là, celui-ci est Esther Jésus de Nazareth. Vous voyez? Qui est stérile? Voyez-vous? Il Néhémie pouvait pas comprendre ça. Mais pourquoi? Ainsi, pourquoi certains pouvaient voir tandis que d'autres Néhémie pouvaient pas voir l'accomplissement de la parole là même sur la croix? Parce que Dieu Esther souverain dans sa révélation. Il Esther souverain avec celui à qui il se révèle. Dieu Esther souverain avec celui à qui il choisit de se révéler. Et frère Branham dit cette même chose dans son sermon, qui Esther c'est Melchizedek, où il nous fait savoir que quand on en vient à la révélation, Dieu Esther souverain avec celui à qui il choisit de se révéler. Qui Esther c'est Melchizedek? Dîme 21 février 65 à 51 Vous vous souvenez? Nous avons lu dans les Écritures ceci, cela Néhémie dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui? Dieu Esther souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu Esther souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal à qui son affaire? Même la parole elle-même, très souveraine. Même la révélation Esther souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même Esther souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens cognent sur les choses, bondit sur les choses, frappe sur les choses, Néhémie sachant pas ce qu'ils font. Dieu Esther souverain dans ses œuvres. Or, frère Branham fait une déclaration très importante ici quand il nous dit que même la façon dont Dieu se révèle, et à qui il se révèle, Esther souverainement donnée. Il dit, même la révélation Esther souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même Esther souveraine en Dieu. Maintenant, vérifions cela par nous-mêmes dans les Saintes Écritures. Luc 10.21 En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne n'est mis connaît qui Esther le Fils, si ce n'est Esther le Père, ni qui Esther le Père, si ce n'est Esther le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 23 Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. 24 Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et Néhémie l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et Néhémie l'ont pas entendu. Remarquez les paroles de Jésus pendant qu'il priait le Père. Il y a trois choses très distinctes qu'il dit ici qui établira ce que William Branham enseigne concernant la souveraineté de Dieu dans la révélation. Numéro 1 Jésus dit, tu as caché ces choses. Ensuite il nomme deux groupes spécifiques de gens à qui Dieu, son Père, a caché ces choses, à savoir aux sages et aux intelligents. Numéro 2 Jésus dit, tu les as révélés. Ensuite il nomme spécifiquement un groupe de gens qui ont le droit de recevoir ces choses qui étaient cachées à l'autre groupe. Ce groupe sont ceux qu'il appelle les enfants. Comme nous le voyons encore dans Matthieu 11.25 en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » 26 Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne n'est mis connaît le Fils, si ce n'est Esther le Père, personne non plus n'est mis connaît le Père, si ce n'est Esther le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Remarquez que dans les deux allusions aux Écritures, Jésus parle de deux types de gens à qui Dieu a caché ces choses, à savoir aux sages et aux intelligents. Le premier groupe, ce sont ceux qu'il appelle sages qui vient du mot grec, sopho, sopho, et on y fait fréquemment allusion comme étant sages. Il signifie plus spécifiquement ceux qui sont habiles ou experts dans les lettres, ceux qui ont été cultivés, et qui sont appelés des érudits, tels que les philosophes et les orateurs grecs, ou les théologiens juifs, ou les docteurs chrétiens. La raison en Esther que ces hommes, en ayant été enseignés et cultivés dans leur pensée, en sont arrivés au point où leur modèle de pensée Esther tel qu'il leur est littéralement impossible de changer leur mentalité. Ce sont des hommes qui ont formé leurs esprits à penser d'une certaine façon et Néhémie peuvent donc pas accepter tout ce qui est Esther en dehors de la façon dont ils ont été enseignés. L'autre groupe à qui Dieu cache sa parole sont ceux que Jésus appelle les intelligents. Ce sont les sunto, sunetose ou, les prudents, les soi-disant intelligents, les hautement qualifiés et les gens instruits ou cultivés, ces hommes qui ont cultivé leurs esprits à une certaine compréhension, et par conséquent, ils sont appelés des sages et des érudits, des soi-disant experts. Mais si leur expertise est fondée sur une mauvaise réflexion, alors à quoi bon leur soi-disant expertise ? 1 Corinthiens 18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19 Aussi Esther écrit, Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vint où Esther le sage? Où Esther le scribe? Où Esther le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. 23 Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les pagans. 24 Ma puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie de Dieu Esther plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu Esther plus forte que les hommes. 26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 28 Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'émissent son point, pour réduire à néant, pour réduire à rien, celles qui sont. 29 Afin que nulle chair n'émisse se glorifie devant Dieu. 30 Or, c'est Esther par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 31 Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. I Corinthiens 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. 2 Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, et de grand tremblement. 4 Et ma parole et ma prédication Néhémie reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5 Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 6 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. 7 Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. 8 Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'émissent point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ni Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est stère l'Esprit de l'homme qui estère en lui. De même, personne n'est aimé connaît les choses de Dieu, si ce n'est stère l'Esprit de Dieu. 12 Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais l'homme animal n'émis reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il n'émis peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. 16 Car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Deuxièmement, nous devons nous demander, quelles étaient ces choses qui étaient cachées aux sages et aux intelligents? Il semblerait, En lisant Matthieu 11 que ces choses dont parle Jésus sont les manifestations surnaturelles qui s'accomplissaient dans son ministère. Nous voyons Jésus nous dire dans Matthieu 11.20 alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles s'étaient pas repenties. 21 Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaida. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. Donc, il est terrible que les œuvres surnaturelles auxquelles il fait allusion Néhémie sont pas faites pour le plaisir de les faire, mais elles sont plutôt faites pour faire prendre conscience de la présence du Dieu surnaturel, afin que les hommes se repentent. Par une lecture attentive de Matthieu 11, nous voyons que ce n'étaient pas les œuvres puissantes mais le sens caché derrière les œuvres, à savoir que Dieu était là sur place confirmant le message, et comme tel, en reconnaissant cela, ils en arriveraient automatiquement à se repentir. Comme le prêtre catholique a dit en faisant allusion aux événements surnaturels qui ont eu lieu à Fatima. Il a dit, quand Dieu fait quelque chose dans le surnaturel, en attirant les yeux des gens et donc leur attention, ce n'est pas que Dieu fait cela pour monter un spectacle, mais plutôt pour faire en sorte que les gens se taisent et écoutent. Et frère Branham sur le devant de son estrade au tabernacle en grosses lettres majuscules. Il Esther écrit un verset très peu connu qui dit, « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. » Une lecture plus minutieuse de ce verset nous donne une bien meilleure image de ce que veut vraiment dire ce panneau. Psaume 46.10 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, pourquoi? Parce que, je domine sur les nations, je domine sur la terre. -11 L'Éternel des armées Esther avec nous. Le Dieu de Jacob Esther pour nous une autre traite. Pause. Autrement dit, si vous vous tenez vraiment tranquille, vous verrez, vous observerez et ensuite vous connaîtrez. Par conséquent, l'intention de Dieu n'est-ce pas de faire des choses pour vous divertir, mais il fait les choses pour attirer votre attention afin que vous puissiez connaître. Par conséquent, il est impératif que nous écoutions attentivement ce que Dieu nous réserve afin que nous, Néhémie, puissions pas continuer dans notre erreur, mais que nous puissions avoir une compréhension. Il a dit, si Sodome et Gomorre avaient vu ce que vous avez vu, ils auraient su quoi faire, et ils se seraient repentis. Mais vous êtes tellement lent à entendre et à voir que ces choses pourraient se dérouler devant vos propres yeux et vous Néhémie comprendrez jamais de quoi il s'agit. Cependant, Jésus nous dit dans Matthieu 13 que Dieu cache exprès la révélation à tous ceux qui Néhémie sont pas destinés à la connaître et à la comprendre. Matthieu 13.10 Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Remarquez, ils ont dit leur parle, en indiquant un autre groupe de gens, pas ceux dans le cercle, pas ceux dans sa présence, mais ils indiquaient d'autres gens qui ont aussi entendu les choses que Jésus disait. Maintenant, contractons cela avec la même scène telle que décrite par Marc dans l'évangile de Marc. Marc 4.10 Lorsqu'il fut en particulier, remarquez ici qu'il n'a pas lâché cela en public, mais là, fais très attention à Néhémie parler qu'à ceux qui étaient destinés ou ordonnés à entendre cela. Ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit, c'est-à-dire à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole. Remarquez encore les paroles de Jésus, je vous parle d'une certaine façon, mais à ceux qui sont dehors, je parle d'une façon qui cache exprès ce que j'essaye de vous communiquer. 11 Il leur dit, c'est-à-dire à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole, ça n'a pas été donné. Autrement dit, cela vous a été donné. Cela vous est donné comme don de connaître, mais aux autres, il n'est mis, il n'aura pas été donné. Cela n'est mis, il n'aurait pas été donné comme don de connaître. Le mot donné ici a été traduit du mot grec didomi, did, omiché, et il signifie donner ou accorder. De son, plein gré, donner à quelqu'un quelque chose, dans son intérêt, remettre un présent. Remarquez alors que la chose que Jésus leur dit, s'estère que les choses qu'il leur dit estèrent dans leur intérêt. S'estère pour leur bien, mais ce n'estère pas pour le bien de ceux qui sont dehors. 12 Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et Néhémie comprennent point, de peur qu'une Néhémie se convertisse, et que les péchés Néhémie leur soient pardonnés. Or, le mot ici fut traduit du mot grec écho et il signifie non seulement détenir et posséder. Mais si on n'avait pas traduit le mot grec écho, mais qu'on l'avait pris comme tel en anglais ou dans d'autres langues de base latine, la conséquence est que ce mot signifierait la même chose en anglais qu'en grec. Et nous savons que l'usage le plus fréquent du mot écho signifie non seulement répéter mais aussi refléter ou réfléchir tel qu'on l'entend dans l'original. Par conséquent, nous voyons un principe que Dieu donne à ceux qu'il a fait de façon à pouvoir renvoyer, ou réfléchir, ou redonner ce qu'il nous donne. Et ceux qui Néhémie peuvent pas et Néhémie sont pas faits de façon à pouvoir redonner à Dieu ce que Dieu a donné, les choses qu'ils pensent avoir leur sera pris. Et que voulait dire Jésus en disant qu'ils Néhémie peuvent pas écho? Il parle de leur compréhension et de leur capacité à comprendre et donc à appliquer ce qu'il leur donne. C'est-à-dire pourquoi frère Branham dit dans le synodime 1er septembre 63 M136 peu m'importe, vous pouvez avoir chassé les démons, vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi, vous pouvez avoir fait tout cela. Mais si ce signe n'estère pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être un croyant. Vous pouvez vous tenir à la chair et prêcher l'évangile. Plusieurs viendront à moi ce jour-là, en disant, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Prêché en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Cela concerne tant les méthodistes, les baptistes que les pentecôtistes. Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je n'ai aimé vous ai jamais connu. 137 Mais quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. C'est-à-dire ce que Dieu exige en cette heure-ci. Le message du temps du soir est-à-dire d'appliquer le signe. 138 Satan a semé toutes sortes de faux semblants, des poignées de main, des évidences et des choses comme ça. Oubliez ça. C'est-à-dire maintenant l'heure du signe lui-même, non pas quelques contrefaçons, quelques faux semblants, quelques substituts, rien. 139 C'est-à-dire maintenant l'heure où le signe lui-même s'identifie au milieu de nous, et de prouver qu'il est le même Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement, et il est tout à fait conforme à la parole. Il doit être appliqué. Que penser d'un homme qui prétend avoir ce signe et qui nie cette parole? Vous Néhémie pouvez pas le faire. Le signe doit être là. Quand je le sang vous servira de signe. Maintenant, le Saint-Esprit, la vie qui était dans le sang, vous sert de signe. On y arrivera dans un instant, voyez-vous. Le Saint-Esprit estère le signe. L'affaire estère classée. Oui, oui. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux que vous remarquiez que frère Branham fait une distinction subtile entre le signe et un signe. Le signe, c'est le Saint-Esprit lui-même, s'identifiant parmi nous, éprouvant ou confirmant qu'il est le même et qu'il n'y change pas. Mais il parle aussi d'un signe qu'il appelle la vie qui était dans le sang mais qui est maintenant dans le croyant. Mais la question est, qu'est ce qui doit être affiché? Et la réponse est, vous Néhémie pouvez pas afficher le signe, parce que lui seul peut s'afficher. Mais ce que vous devez impérativement afficher, c'est Esther, la preuve que la vie même qui était dans le sang Esther entrée en vous, et cela sera attesté dans votre vie par votre réaction à la présence personnelle du signe au milieu de vous. Remarquez la façon dont frère Branham divise correctement la pensée ici d'un signe et du, de plus le, signe. Il utilise l'article le pour faire allusion à la personne du Saint-Esprit lui-même. Et il utilise l'article indéfini pour faire allusion aux attributs de la vie de Dieu dans le croyant. Nous retrouvons ce même article défini et utilisé aussi dans la Bible en faisant allusion à la différence entre le Saint-Esprit en contraste avec ses attributs de la vie, qui sont donnés aux croyants. Jean 3.6 « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Remarquez la façon dont le verset est écrit. L'Esprit parle de Dieu qui est esprit et vie, et remarquez qu'il est précédé de l'article défini, le et d'un E majuscule qui désigne la personne du Saint-Esprit. Puis remarquez les deux derniers mots, est esprit. Cela parle du pneuma ou la vie de Dieu qui est en vous par la nouvelle naissance. Mais cela n'est mis, par le pas de Dieu lui-même. Et ce n'est pas un E majuscule, dans la version anglaise. Note du trad. Mais c'est plutôt un E minuscule. Et nous savons que frère Branham a montré cela quand le mot ange est appelé avec un A majuscule. Il fait allusion aux êtres angéliques. Et avec un A minuscule. Il fait allusion à des hommes qui sont des messagers. Question et réponse sur les Hébreux 3 dîmes 6 octobre 57 788 là où il est question des anges. Des anges célestes. Sester un grand A. A majuscule. Là où Sester un petit A. Il s'agit des hommes. Des anges. Frère Branham poursuit, 140 peu importe ce que vous êtes. Combien vous êtes bon. Combien vous avez sautillé. À combien d'églises vous avez adhéré. Combien de bonnes choses vous avez faites. Cela n'est mis, vous sera d'aucun profit si le signe n'est pas appliqué. Nous sommes au temps du soir. Cela avait bien marché du temps de Luther. Cela avait bien marché du temps de Wesley. Mais ça n'y marche pas aujourd'hui. Non. 141 oui. Le fait de garder l'agneau. C'était bien alors. Pour ceux qui sont morts avant que l'agneau n'ait soit appliqué le sang. C'était une autre chose. Oui. Oui. Ils s'en sont allés avec une bonne conscience. Ils seraient jugés selon qu'ils étaient. 142 s'ils étaient prédestinés. Cela les touchait. Sinon. Pas. Voilà tout. C'est simplement l'affaire de Dieu. Il justifie qui il veut. Il fait miséricorde à qui de veut. Et il condamne qui il veut. Il est Dieu. Voilà tout. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et condamne qui il veut condamner. Donc. En revenant à Matthieu 13.13 Esther pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant ils n'y voient point. Et qu'en entendant ils n'entendent ni n'y comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie des âges, vous entendrez de vos oreilles. Et vous n'y comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux. Et vous n'y verrez point. 15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Or, rappelez-vous le cœur fait toujours allusion à leur compréhension. Et par conséquent, si leur cœur est devenu insensible, cela signifie que leur compréhension s'est endurcie ou épaissie, ou cristallisée et ils n'y peuvent rien apprendre de plus que ce qu'ils savent. Comme la femme de Lot qui s'est cristallisée et a cessé de marcher et Néhémie pouvait plus avancer. Et quand vous cessez d'apprendre, vous devenez stupide. Et c'est exactement ce que dit la définition grecque. 1. Épaissir. Grossir. Engraisser. Métaf. Devenir stupide, rendre la blanc à comprendre ou à apprendre ou insensible. Et Jésus continue en disant. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. Ils les ont fermés. Par conséquent, Cette ignorance est-elle volontaire, de peur qu'ils n'aient mis voix de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils n'aient mis comprennent de leur cœur, qu'ils n'aient mis se convertissent, et que je n'aie mis les guérisse. 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et n'aimés l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et n'aimés l'ont pas entendu. Nous voyons aussi que Marc témoigne de la même pensée dans l'évangile de Marc, mais cette fois-ci, avec une compréhension légèrement meilleure de la scène où Jésus parlait de ces choses aux apôtres. 12. Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et n'aimés comprennent point, de peur qu'ils n'aimés se convertissent, et que les péchés n'aimés leur soient pardonnés. C'est-à-dire à l'époque de l'Odyssée, l'époque des droits du peuple, où ils se battront bec et ongles pour s'assurer que leur vote compte même s'ils sont trop stupides pour suivre de bonnes indications. Et, comme il en estère dans le naturel, ainsi en estère-il dans le spirituel. Trop stupide pour suivre des indications, trop stupide pour suivre celui qui estère descendu pour nous conduire dans la gloire. Exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église de la Odyssée. Page 347. 347-3 Vous êtes aveugle et nu. Il y a de quoi désespérer. Comment peut-on être aveugle et nu, et n'aimer pas s'en rendre compte? Pourtant, il est dit qu'ils sont aveugles et nus, et qu'ils n'aimer s'en aperçoivent pas. La réponse, c'est qu'ils sont aveugles et nus spirituellement. Vous vous souvenez quand Élisée et Gehazi étaient encerclés par l'armée des Syriens? Vous vous rappelez qu'Élisée a frappé cette armée d'aveuglement par la puissance de Dieu. Pourtant, ils avaient les yeux ouverts, et ils voyaient où ils allaient. Leur aveuglement était particulier en ceci, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voir certaines choses, mais qu'il y a d'autres choses qu'ils n'aimaient pas pouvaient pas voir, comme Élisée, son serviteur et le camp d'Israël. Ce que voyait cette armée Néhémie lui servait à rien. Ce qui Néhémie pouvait pas voir les a rendus captifs. Or, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie exactement la même chose qu'à l'époque du ministère terrestre de Jésus. Il a essayé de leur enseigner des vérités, mais Néhémie voulait pas écouter. Jean 9.40-41. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» 41 Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est-à-dire pour cela que votre péché subsiste. » L'attitude de cet âge est exactement la même. On a tout. On sait tout. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas du tout dans le but d'apprendre éventuellement quelque chose, mais n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Or, permettez-moi de poser une question toute simple. Un passage de l'Écriture peut-il s'opposer à un autre? La Bible se contredit-elle? Peut-il y avoir dans la Bible deux doctrines de vérité qui disent le contraire l'une de l'autre? Non. Cela n'aimé se peut pas. Et pourtant, combien de gens, parmi le peuple de Dieu, ont les yeux ouverts à cette vérité? Pas même 1% d'entre eux, pour autant que je sache, ont appris que toutes les Écritures sont données par Dieu, et que toutes sont utiles pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, etc. Vous savez quand je dis que j'ai des gens qui tombent sur mes arguments et me disent, vous excluez les gens. Je n'exclus pas les gens, ils s'excluent eux-mêmes. Si un prophète de Dieu a dit que même pas 1% ont les yeux ouverts, alors dites ce que les bandits disent, Et arrêtez de faire des histoires quand nous disons ce que disent les bandes. Si toutes les écritures sont données ainsi, alors chaque verset s'imbriquera parfaitement dans l'ensemble, si on lui en donne la possibilité. Mais pourtant, combien croient à l'élection par prédestination, et à la réprobation qui mène à la destruction? Ceux qui n'y croient pas écouteront-ils? Pas du tout. Pourtant, ces deux choses sont dans la parole. Et en Néhémie peut rien y changer. Mais Néhémie ne veut pas prendre le temps d'apprendre ces choses et de faire correspondre la vérité de ses doctrines avec d'autres vérités qui semblent s'y opposer. Ils se bouchent les oreilles, grincent des dents, et perdent tout. À la fin de cet âge, un prophète viendra, mais ils seront aveugles à tout ce qu'il fera et dira. Ils sont persuadés d'avoir raison, mais dans leur aveuglement, ils perdront tout. Remarquez, ils seront ceux qui perdent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas la parole pour la connaître et la comprendre. Ils suivent aveuglement, puis quand ils sont testés par l'épreuve de leur foi, ils faillissent parce qu'ils n'ont pas un fondement ferme dans cette parole. 348-1 Et Dieu dit qu'ils sont non seulement aveugles, mais aussi nus. Je n'ai mis peu rien imaginer de plus tragique qu'un homme qui serait aveugle et nu, sans le savoir. Il n'y a qu'une explication à cela, il a perdu la tête. Il est déjà profondément inconscient. Il a perdu ses facultés. L'amnésie spirituelle s'est installée en lui. Qu'est-ce que cela peut encore signifier? Serait-ce que le Saint-Esprit a quitté l'Église de ce dernier jour? Serait-ce que les hommes ont chassé Dieu de leur esprit à un point tel qu'il arrive ce qui est dit dans Romains 1.28? Comme ils n'ont mis se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Il est clair que c'est ce qui est arrivé. Voici des gens qui disent être de Dieu, connaître Dieu et avoir son Saint-Esprit, et pourtant ils sont nus et aveugles, et ils n'aiment et le savent pas. Ils sont déjà séduits. Ils n'ont pas l'esprit qu'il faut. Les élus n'aiment et peuvent pas être séduits, mais, il est évident que ceux et ces personnes les sont séduites. Ce sont ceux qui ont été aveuglés parce qu'ils ont refusé la parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont mis à nu en quittant le secours et la protection de Dieu, en cherchant à établir leur salut à leur manière, à édifier leur propre tour de Babel par l'organisation. Oh! Comme ils se trouvent merveilleusement bien vêtus, avec leurs assemblées plénières, leurs conciles, etc. Mais maintenant, Dieu dépouille tout cela, et ils sont nus, car ces organisations les ont tout simplement menés dans le camp de l'Antichrist, dans le champ de l'ivraie, pour être liés et brûlés. Ce sont vraiment des objets de pitié. Oui, prenez-les en pitié, avertissez-les, exhortez-les, ils continueront quand même à foncer, tête baissée, vers la destruction. Ce sont des tisons qui s'opposent farouchement à ce qu'on les retire du feu. Ils sont vraiment misérables. Et pourtant, ils n'aiment s'en rendent pas compte. Endurcis au-delà de tout espoir, ils se glorifient dans ce qui est en réalité leur honte. Ils défient la parole. Et c'est pourtant par elle qu'un jour ils seront jugés, et ils devront payer le prix fixé dans son terrible réquisitoire. Par conséquent, ça devrait être très évident que Dieu est souverain quant à qui il se révèle et à qui il, Néhémie, se révèle pas. Qui est c'est Melchizedek? Dîme 21 février 65 et 50 Souvenez-vous que vous, vos yeux, votre stature, tout ce que vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Et tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Après l'avoir pensé, il l'a prononcé et vous voilà. Si ce n'est pas ainsi, si vous n'étiez pas dans sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas, car il est celui qui donne la vie éternelle. 51 Vous vous souvenez? Nous avons lu dans les Écritures ceci, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Et afin que sa prédestination demeure vraie, il a pu choisir, avant n'importe quel temps, qui. Dieu est souverain dans son choix. Le saviez-vous? Dieu est souverain. Qui était là-bas pour lui indiquer une meilleure façon de faire le monde? Qui oserait lui dire qu'il dirige mal à qui son affaire? Même la parole elle-même, très souveraine. Même la révélation est souveraine. Il révèle à qui il veut. La révélation elle-même est souveraine en Dieu. Dans son sermon La seule vraie Église vivante 27 juillet 51 frère Branham dit, car en Dieu est souverain et doit accomplir sa parole. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles Néhémie passeront point. Si Dieu a dit cela, 41 Dieu Néhémie vaut pas plus que sa parole. Et si sa parole Néhémie vaut rien, alors il Néhémie vaut rien. Si votre parole, si je Néhémie peut pas avoir confiance dans ce que vous dites, c'est que vous Néhémie valez rien. Mais vous valez exactement ce que vaut votre parole. Et Dieu vaut exactement ce que vaut sa parole. Et moi, en tant que croyant chrétien, je crois que cette Bible est inspirée, qu'elle a été écrite par le Saint-Esprit et qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Et Dieu est lié par obligation vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis du croyant qui accepte sa parole. Et chaque parole est une semence. Si vous l'acceptez dans votre cœur par la foi, la croyez et la confessez, Dieu l'accomplira. Or, si la révélation de Christ est souverainement donnée, alors vous Néhémie pouvez pas y entrer par vos propres moyens. Vous Néhémie pouvez pas y entrer par l'étude. Vous Néhémie pouvez pas mener une vie d'une telle obéissance que Dieu sera obligé de vous donner la révélation de lui-même. Dieu Néhémie fonctionne pas ainsi. Il est souverain et il se révèle à celui qu'il veut se révéler. Vous voyez? Voilà pourquoi tant de gens ont si tort quand ils pensent que lorsque frère Branham reviendra, je serai dans cette tente et prendrai part au ministère de la résurrection, parce que je crois le message depuis 20 ou 30 ans ou depuis le nombre d'années qu'ils ont cru. Être dans cette tente pour le ministère de la résurrection Esther souverainement donné exactement comme une vraie révélation Esther donnée souverainement. Ce n'est pas combien vous connaissez frère Branham, parce que le message n'est pas à propos de William Branham. C'est à propos de la révélation de Jésus-Christ et à l'Esther donnée souverainement. Laissez-moi le dire ainsi, de savoir que le cri Esther le message Néhémie signifie pas que vous êtes entré dans ce message. Dans Matthieu 16 lorsque Jésus a demandé à Pierre et aux disciples ce que les hommes disent qu'il est Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette révélation a été souverainement donnée. Jésus a dit, tu es béni, Pierre, car cette révélation Néhémie vient pas d'un homme mais de mon Père. Elle a été souverainement donnée. Pierre n'était pas le meilleur homme du groupe. Plus tard, il a renié Christ 3 fois. Mais cette révélation donnée à Pierre a été donnée souverainement. Matthieu 16.13 Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ce disciple, qui dit-on que je suis? Moi? Le Fils de l'homme? 14 Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Et vous? Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? 16 Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est mis son pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, pas sur Pierre, il a renié Christ par trois fois, mais sur le roc de la révélation qui a été souverainement donné, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts Néhémi prévaudront point contre elle. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et la révélation Esther la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Examinez cette question que quelqu'un a posée à frère Branham. Question et réponse numéro 1 d'Im 23 août 64 M157-248. Le troisième pull. Et Esther prononcer la parole. Il semble tout à fait possible pour vous de prononcer la parole et que quelqu'un soit complètement et entièrement restauré et rendu parfaitement prêt pour l'enlèvement lors de la résurrection. Le Fils de l'homme. Esther-ce ainsi ou non? Et vous le feriez si vous y étiez vraiment poussé. N'allez-vous pas échapper à toutes ces choses si Esther entre guillemets ici échappait à toutes ces choses et paraître debout devant le Fils de l'homme? Luc 21.36, 158 maintenant. Mon cher ami, voyez-vous, maintenant je pense qu'ici, vous avez fait une. Vous avez fait une bonne constatation. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Eh bien, ça se pourrait. Vous avez dit, frère Branham. En d'autres termes, voici ce que je n'ai pense pas que c'est Esther. Je peux. Je crois que je n'ai veut pas arranger ce que vous avez dit. Mais je pense que je peux le rendre un peu plus clair pour les gens. Voyez-vous? Vous croyez à cause des paroles parlées et des choses comme cela dont il a parlé. Et vous tous qui êtes ici, vous avez été témoins des écureuils et de toutes les autres choses qui sont arrivées. Mais l'avez-vous remarqué? Ce fut donné souverainement. Je n'ai aimé lui a jamais dit, Seigneur, laisse-moi faire ceci, laisse-moi parler pour amener ces choses à l'existence, comme cela et faire ces choses-là. Je n'ai aimé le lui a jamais demandé. C'est Esther lui qui, par sa propre volonté divine, Esther venue vers moi et m'a dit, va faire ceci. Voyez-vous, je n'ai aimé demander rien à ce sujet. Moïse n'a jamais demandé d'aller en Égypte, mais c'est Esther Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Voyez-vous? Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, mars 2021. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.